Zeit fir Navité am moes Magasin an Hauderstatten Hüg da jesam Gespräch Mam. Georges Kohnen. 90 Jahre alt hat auf dem Dach nämlich hier, dass die Leser von der Belgischen Zeitung Levant im Siècle die erste Kehr den Tintin entdeckt haben, die wohl bekanntesten Reporter aus der Welt von der Bande Dessinée, mit natürlich seinem Hund, dem Milou. Es war den 10. Januar 1929 an die erste Geschichte, die den Georges Rémy alias Hergé kreiert hat, war Tintin au Pays des Sowjets, eine naive Kritik vom bolschewistischen Russland. 90 Jahre an 250 Millionen verkauften Albumen mit spät, als den Tintin war immer ein von den populärsten Phänomenen von der Bande Dessinée, den sogar im Jahr 2011 von Steven Spielberg am Kino adaptiert wurde. 1976 ist das letzte Album von der Serie herausgekommen und Georges Rémy hat sich gewünscht, dass kein anderen Zeichner nur seinem Tod den Tintin gave weiterleben lassen. Der Wunsch wurde respektiert, aber für die 90 Jahre kann er sich also im Prinzip kein neues Album erwarten. Was die vom RG 400, das geht richtig haut bei einer Pressekonferenz abgedeckt. Aber der Georges Kohnen, also Korrespondent an der Belge, hat sich am Vierfeld zu Brüssel mit dem Hergé-Expert Hugues Dayez in der Hallen an die Geschichte und die Evolution vom Tintin retraciert.
Hugues Dayez, vous êtes le monsieur cinéma de l'RTBF, mais aussi un passionné, un expert de bande dessinée. Bonjour, merci de nous accorder un petit peu de votre temps.
Bonjour à tous.
Cela fait donc aujourd'hui exactement 90 ans qu'on a vu pour la première fois la, si j'ose dire, la tête et la houppette de Tintin, dans Tintin au pays des Soviets, qui était donc pré-publié dans l'hebdomadaire Jeunesse le petit 20e. C'était le 10 janvier en 1929. Mais comment ça se passait à l'époque, les publications des bandes dessinées ?
Ce qui est intéressant, c'est que le petit 20e, ce fascicule, est un supplément d'un quotidien de la droite catholique dirigé par l'abbé Norbert Wallet ou Wallaise, qui s'appelait le 20e siècle. Et ce n'est pas un journal de bande dessinée, c'est un supplément qui s'insère dans une ligne idéologique très précise, à savoir la droite catholique belge et coloniale, colonialiste aussi, d'où les soviets, d'où Tintin au Congo. Et il est très clair que Norbert Wallet est une sorte de père spirituel pour le jeune Georges Rémy, le jeune Hergé, qui est très très malléable et qui est très heureux de faire plaisir à son patron et qui a un talent de dessinateur tout à fait évident, même si au début il pique beaucoup à beaucoup de monde. Hein. Il pique à Alain Saint-Augan de Zygépus, mais il ne s'en est jamais caché. Donc graphiquement, il a des influences. Il pique à Benjamin Rabier aussi, mais c'est normal. Il est tout jeune, il crée son style. Mais donc graphiquement, il va chercher des influences un peu partout. Mais intellectuellement, son influence, c'est l'abbé Wallet. D'ailleurs, un livre vient d'être publié justement sur ce personnage qui était une sorte de personnage très charismatique et adepte de Mussolini, adepte d'une Europe forte. Enfin bon, on voit les slogans de l'époque.
Et ami de Degrelle, je pense aussi.
Oui, on sait bien que Hergé a lui-même illustré des textes de Degrelle. Enfin, on connaît tout ce bain de la droite catholique et de la droite belge, entre guillemets, bien pensante, qui va basculer dans le rexisme. Mais ça, c'est plus aux historiens d'en parler qu'aux historiens de la bande dessinée. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, pour résumer, Hergé est un jeune homme sous influence, quoi. Et il n'a pas une conscience politique très aiguë de son propre aveu. C'était une éponge. Et c'est une éponge qui épouse les idéologies de son journal. Et donc, Tintin est le brave petit reporter sans peur et sans reproche, mais qui va braver le rouge et les communistes et dénoncer le régime soviétique dans Tintin au pays des soviets, mais dénoncer de façon très naïve, puisque du propre aveu d'Hergé, il n'y est jamais allé, il a juste lu un bouquin qui s'appelait Moscou sans voile, qui était un pamphlet très orienté et très anticommuniste. Ce n'est que bien plus tard, on sait que le virage officiel de Hergé pour de la bande dessinée plus documentée, plus subtile, ce sera le Lotus Bleu avec l'aide de Chang Chong-yen, où là, effectivement, il va totalement changer de cap et faire de la bande dessinée beaucoup, beaucoup plus documentée et beaucoup moins naïve.
On lui a d'ailleurs reproché, c'est-à-dire ici au XXIe siècle, cette approche colonialiste, ce sexisme, ce racisme.
C'est-à-dire que sans vouloir défendre Hergé à 100%, on est dans une mode aujourd'hui, on fait du révisionnisme sans jamais réinscrire les œuvres dans le contexte politique dans lequel elles ont été faites. Il est évident que quand Hergé fait Tintin au Congo, ben, il le fait dans un journal qui défend la politique coloniale de la Belgique et la politique des bons pères qui éduquent les masses africaines, les masses congolaises. C'est d'ailleurs un paradoxe assez formidable de voir que Tintin en Congo est un album régulièrement décrié, que certains Africains aujourd'hui parfois veulent tenter des procès pour le faire interdire. Or, ce qu'on ne dit pas trop, c'est que c'est un des best-sellers de la série. Tintin en Congo est un des albums qui s'est toujours le mieux vendu, parce que c'est un album avec des gags burlesques qui plaît énormément aux enfants. C'est une aventure au premier degré, alors que d'autres albums beaucoup plus subtils de la série, comme Coq en Stock par exemple, les albums tardifs qui dénoncent l'esclavage, qui dénoncent les négriers, sont des albums qui ne sont pas les best-sellers dans la série Tintin. Donc, j'ai envie de dire, certains albums adultes très subtils de Hergé sont des albums un peu mal aimés par le très grand public. J'en veux pour preuve un album génial qui est Les Bijoux de la Castafiore, qui est quand même une aventure extrêmement gonflée, puisque c'est une aventure sans aventure. C'est un chef-d'œuvre absolu, mais qui plaît plus aux sémiologues et aux intellectuels et aux tintinophiles pur sucre qu'au grand public, qui trouve justement qu'il ne se passe rien dans cet album et qui lira plus volontiers des albums au premier degré. Et Tintin en Congo, qui a souvent été un collier un peu encombrant pour Casterman, il y avait certains éditeurs chez Casterman qui hésitaient à le rééditer, Hergé voulait le rééditer, enfin bien, il y a une correspondance très très fournie à ce sujet. Tintin en Congo reste un des best-sellers de la série, donc c'est peut-être paradoxal, mais en attendant, c'est un fait avéré.
Et d'ailleurs, Tintin, en général, reste le best-seller du catalogue de Casterman, avec, je pense, si j'ai bien lu, plus de 250 millions d'exemplaires vendus, traduit en 120 langues, dont le luxembourgeois. Ça reste encore aujourd'hui quelque chose qui a vraiment passé les générations, parce que ça a quand même enchanté 3-4 générations de lecteurs.
Oui, mais c'est assez énorme de voir qu'effectivement, un des fleurons du catalogue de Casterman est ce qu'on appelle en termes commerciaux une série morte. C'est-à-dire qu'une série morte, c'est une série qui n'a pas de nouveautés. Or, il n'y a plus de nouveauté depuis plus de 40 ans maintenant, puisque Tintin et Picaros date de 1976. C'est la seule qui résiste, d'ailleurs. Tous les autres... on sait bien qu'aujourd'hui, on est à une époque où les reboots, les sequels, les remakes, les suites en tout genre sont à la mode, et on ne peut plus jamais écrire le mot fin à rien du tout, ni en cinéma, ni en littérature, dans aucun produit de la pop culture. Il faut toujours, toujours, toujours produire. Alors, il y a le contre-exemple absolu qui est de la même époque que Tintin, c'est Blake et Mortimer, dont on a fait une sorte d'usine à albums, qui commercialement marche très, 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 très bien. Pour moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt, parce que le vrai mythe Blake et Mortimer, c'est Jacobs. Bon, ça, c'est mon simple point de vue. Mais voilà, je veux dire, Tintin, ce à quoi il faut rendre hommage, si on peut rendre hommage à Fanny Rémy, devenue Fanny Rodwell, la veuve d'Hergé, c'est d'avoir respecté la parole d'Hergé, d'avoir dit pas de nouvel album, c'est une œuvre trop personnelle, c'est une œuvre et c'est pas un produit, c'est une œuvre, donc pas de nouvel album. Or, les pressions commerciales sont terriblement fortes. La meilleure façon de faire vivre une série, la plus simple, la plus facile, c'est de créer une nouveauté. Vous avez un nouvel Astérix qui arrive, boum, ça fait 2 millions d'exemplaires à la nouveauté. Et puis, comme disent les professionnels de l'édition, ça réactive tout le bac catalogue. Donc ça, c'est la solution formidable pour réactiver Tintin. Moi, je pense que Tintin, aujourd'hui, c'est une valeur de patrimoine, c'est-à-dire que les familles qui en ont dans leur maison les font lire aux enfants, mais on est en fin de règne. Je crois que Tintin, qui n'a pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, ça devient une sorte de valeur patrimoniale, rétro, qui a un certain charme, mais c'est effectivement encore un miracle que ça fonctionne autant. Mais je veux dire, à l'unité de l'album, on est à... je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais de 30, 40 000 ou 50 000, donc on est très très loin d'une série vivante comme Astérix qui casse la baraque. Mais c'est vrai que c'est encore un miracle que ça existe. Comment expliquer les raisons de ce miracle? Bon, peut-être parce qu'il y a certaines aventures qui, malgré qu'elles sont très datées, fonctionnent encore, sont magnifiquement lisibles. Et puis parce qu'il y a eu quand même quelques produits d'appel, comme le film de Spielberg qui a fait beaucoup, beaucoup de bien à la marque Tintin, qui a créé un nouvel engouement il y a 4-5 ans. Malheureusement, pas sur le territoire américain. C'est pour ça que le deuxième épisode se fait attendre. C'est parce que Peter Jackson, qui voudrait terriblement en faire un, ne trouve pas le studio qui a envie de distribuer le film dans le monde entier. Parce qu'à partir du moment où le premier film a fait des bénéfices de l'ordre de 250 millions de dollars, pour un studio, pour un film de cette envergure, si on n'est pas en dessous de la barre des 400 ou des 500 millions de dollars, c'est jugé inintéressant ou en tout cas pas prioritaire. Donc voilà, le vrai, j'ai envie de dire, le vrai produit d'appel, le vrai élément neuf qui pourrait réactiver encore Tintin, c'est l'audiovisuel, c'est que ce soit sous forme de dessin animé, que ce soit un nouveau film de cinéma, que ce soit une série sur une plateforme de streaming. Je pense que ça ne pourrait passer que par là. Et à ce niveau-là, on est un peu au point mort, il faut bien le dire.
Le film de Spielberg a donc fait beaucoup de bien à l'image de Tintin, mais est-ce que cette rencontre entre Hollywood et la vieille BD belge a été une réussite selon vous ?
Ça a très très bien fonctionné en Europe. Moi je trouve absolument miraculeux qu'un réalisateur hollywoodien et un cinéaste néo-zélandais aient commencé un film qui se déroule au Vieux Marché avec des décors bruxellois, qu'on ait des intérieurs spécifiquement européens, que Spielberg ait osé le clair-obscur et placer énormément de scènes nocturnes sur le paquebot, créer une atmosphère de série noire et oser transposer l'univers. Moi, je suis fervent défenseur de cette approche parce que je trouve qu'elle était, elle était inventive et il y avait des scènes absolument fabuleuses. Je sais que la dernière partie du film a fait hurler les puristes. Mais il faut se rappeler les propos d'Hergé lui-même, qui, quand il a entendu que Spielberg s'intéressait à son œuvre, il disait « Mais Spielberg va s'en emparer, mais c'est un artiste et je veux laisser la liberté à cet artiste de s'en emparer. Si c'est pour faire du copier-coller... » Je vais prendre un exemple récent qui n'a rien à voir. Il y a eu un film français d'après une bande dessinée, Les Vieux Fourneaux, qui a très bien fonctionné. Mais c'est du copier-coller par rapport à la bande dessinée. Qu'est-ce que ça apporte au cinéma d'avoir quasi plan par plan, scène par scène, des acteurs qui joue les dialogues d'une bande dessinée? Si on change de discipline, si on change d'art, si on de moyens d'expression, inévitablement il faut réinventer. Ça n'a pas d'intérêt. Le tout est que la réinvention soit intéressante. Et j'ai le sentiment que la réinvention mêlant Le Secret de la Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge et en même temps le premier épisode où apparaît le capitaine Haddock, le crabe aux pinces d'or, qu'il y ait des épisodes qui mélangent les dunes du désert et les vagues de Rackham le Rouge. Je trouve qu'il y avait des trouvailles visuelles tout à fait étonnantes dans ce film. Il y avait, on ne va pas analyser le film en détail, mais je pense vraiment qu'il y avait simplement... Je n'ai pas été très étonné que ça ne fonctionne pas auprès du public américain, parce que justement les références sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fidèlement européennes dans le film.
Alors Hergé aujourd'hui est aussi connu comme avoir été l'un des principaux acteurs, on va dire, du style de la ligne claire, donc quelque chose de très épuré, sans grande fioriture, de quelque chose d'un dessin très efficace. Est-ce que ce dessin a été une partie de la recette du succès de Tintin?
Je pense que le graphisme d'Hergé, la perfection du graphisme d'Hergé est effectivement une clé de sa pérennité, parce que en fait, naturellement, la série s'arrête en 1976, mais vous avez une lecture du XXe siècle à travers les histoires de Tintin. Vous y retrouvez énormément de pays, énormément de modes, énormément de voitures, d'avions, de décors, de personnages. Quand vous avez l'irruption de la télévision dans le château de Moulinsart, dans les bijoux de la Castafiore, moi qui fais de la télévision, je peux vous dire que c'est extraordinaire. C'est exactement ça. C'est l'invasion des caméras et de toute une équipe de télévision qui chamboule tout sur son passage. C'est parfaitement juste, même si les caméras sont plus légères aujourd'hui. Je veux dire, quand vous revoyez cette scène, le branle-bas de combat au château de Moulinsart par rapport à l'irruption d'un média entre guillemets moderne comme la télévision et l'émission en direct, c'est génial, c'est exactement ça. Quand on voit le présentateur qui pose trois questions à la Castafiore, vous avez l'impression de voir Michel Drucker dans son canapé rouge. C'est exactement ça, et tout est vrai, tout est juste, et en même temps tout est réinventé, tout est stylisé. Le fait que ce dessin soit magnifiquement lisible permet son universalité et permet qu'il ne se démode pas. Certaines histoires se démodent, mais le dessin ne se démode pas, alors qu'il y a énormément de graphismes en bande dessinée qui pue la poussière aujourd'hui. Vous dites, oui, d'accord, c'est un intérêt historique, mais la façon de placer les noirs, les contrastes, l'ancrage, une espèce de souci de réalisme, c'est terriblement daté. Il y a des bandes dessinées, vous dites, dans les cadrages aussi, par exemple, quand vous avez des bandes dessinées qui déstructurent la page avec des petites cases dans les grandes, vous regardez ça aujourd'hui, vous hurlez de rire en disant, ça pue les années 70. Je suis certain que dans 10 ans, dans 20 ans, on regardera un Largo Winch et on verra le dessin quasi industriel de dessinateur industriel de Philippe Franck comme un témoignage des années yuppies. Enfin, c'est très très intéressant. Alors que Tintin, pas du tout. Vous isolez une case de Tintin, vous la grandissez, vous lui faites subir tous les traitements possibles et imaginables. Le dessin tient. Le dessin tient miraculeusement parce que c'est tellement graphique, c'est tellement pensé. En fait, le génie d'Hergé, c'est qu'il a été le premier à avoir, vraiment le premier, en Europe en tout cas, à avoir une véritable ambition pour la bande dessinée. Et pas uniquement, comme Alain Saint-Augan, son précurseur, qui dessinait admirablement. Mais Saint-Augan faisait ça par-dessus la jambe quand il faisait Zicapus. Tandis qu'Hergé, c'est très vite dire, je vais embrasser à la fois de l'aventure, du mystère et aussi des problèmes de société, évoquer les dictatures, évoquer les régimes qui se renversent, l'oreille cassée, les régimes qui se renversent, tout était déjà là. La complexité d'un album comme le Lotus Bleu est quand même phénoménale. Bien sûr, ça s'adresse aux enfants, mais quelle magnifique description de la situation politique de l'époque. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de très très grands albums. On pourrait citer des exemples à l'infini, mais voilà, l'album, un modèle scénaristique comme l'a fait à Tournesol sur la guerre froide, le vol de savants, le vol d'informations entre deux régimes totalitaires, imaginez, bon, la Sildavie, la Bordurie, surtout la Bordurie, c'est un scénario parfait. Tout y est, de l'humour, de l'émotion, de l'espionnage, du mystère, de la politique. Qui peut encore faire un scénario, qui a envie de dire se foule encore à faire un scénario comme ça, lisible par tous, en 60 pages. Aujourd'hui, vous avez des grands auteurs, mais ils vont soit vous faire une saga en 6 épisodes, ou voire 10 épisodes de 44 planches, soit un roman graphique en noir et blanc de 300 pages. Mais on sait bien qu'un roman graphique de 300 pages et un album grand public comme l'affaire Tournesol, c'est pas la même chose, c'est pas le même public, c'est pas le même impact. Je dis qu'il y a certainement des très très grands auteurs aujourd'hui, mais des auteurs qui, comme Hergé, comme Goscinny, comme Tillieux, comme Franquin, enfin toute cette génération-là qui ont réussi, comme Peyot que j'adore, toute cette génération-là qui ont été capables de faire des œuvres grand public de pop culture, compte pas beaucoup aujourd'hui, très honnêtement. Et c'est pas pour rien que les best-sellers, Eva et Vache à lait, c'est les reprises de Lucky Luke, les reprises de Blake et Mortimer, les reprises d'Astérix. Vous avez miraculeusement quelques séries qui émergent, comme par exemple, effectivement, Les Vieux Fourneaux, qui, boum, fait quelque part un peu du Michel Audiard en bande dessinée et qui arrive à être un succès inopiné de librairie. Mais des grandes œuvres, grand public, s'adressant à et intergénérationnelles, je pense qu'elles deviennent très, très rares. Et puis, vous savez, la bande dessinée, c'est un sacerdoce, hein. faire une belle série, ben, on sait bien que les albums d'Hergé, ça lui prenait un an, deux ans, voire plus. Plus il vieillissait, plus ça lui prenait du temps. C'est de l'artisanat, la bande dessinée. Or, on était à une époque, à partir du moment où Netflix lâche 10 épisodes d'une même série immédiatement visible à la demande, qui va encore aujourd'hui se lancer dans un artisanat de bande dessinée et dire je vais faire une belle série qui va s'étendre sur 10 ans, 20 ans, 30 ans de ma vie. Et quel public voudra encore attendre aussi longtemps? Non, je ne vais pas jouer les Cassandres, mais je pense que la bande dessinée classique, celle avec laquelle vous et moi nous avons grandi, cette bande dessinée-là est appelée à mourir. Je pense qu'elle va se réinventer autrement. Je pense qu'effectivement, on est à une époque où les romans graphiques, et ce qu'on appelle les one-shots, suite aussi au succès des mangas, ont beaucoup plus la cote et ont une viabilité beaucoup plus grande. Mais on sait bien qu'éditorialement, les séries, vous avez un jeune gars qui se lance dans une série, si après le tome 3, il n'y a pas un frémissement dans la courbe des ventes, on lui dit c'est gentil, mais même si tu as envie de continuer, on ne te laisse pas continuer. Mmh. Ce qui, à l'époque, était évidemment beaucoup plus possible de continuer. On prend l'exemple d'Astérix, le premier album n'a pas vendu des charrettes entières. Hein, je dis, ça s'est fait lentement et progressivement. Voilà, Hergé, c'est une carrière d'une autre époque, construite sur la longueur, construite aussi via un journal. D'abord le Petit 20e, et puis évidemment le journal Tintin. Et c'était le journal qui était priorité à l'album, c'était le cadeau bonus, en quelque sorte. Mais le rapport concret avec le lecteur, c'était le rapport hebdomadaire, c'était le rapport de la chute de page à suivre, rendez-vous au prochain numéro, rendez-vous la semaine prochaine. C'était des feuilletonistes. Comme le 19e siècle a eu ses feuilletonistes, a eu Alexandre Dumas, a eu Eugène Sue, eh bien, quelque part, le feuilleton s'est déplacé. En Angleterre, c'était Dickens ou Wilkie Collins. Eh bien, au 20e siècle, il s'est déplacé dans le monde de la bande dessinée et les feuilletonistes étaient là. C'était Jean-Michel Charlier avec Blueberry, avec Buck Danny, c'était au-dessus de tout, Hergé avec Tintin.
Den Hugues Dayer am Gespräch mam Georges Konen apropos vom 90. Geburtstag vom Tintin an seinem Flocky dem Milou. An Doriva geht er doch vier und nom Jacques Brel an seinem Titel Madeleine.
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les frites de chêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine qui n'arrive pas. Ce soir j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas, je les ai jetés comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma, je reste avec mes je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas, elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine qui ne viendra pas. Mais Demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi. Tant pis si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Et Madeleine, elle aimera ça.
4 Minuten op halb Reel war neues Magazin von Hautschwatz mei wat den Tantan, den jo op den Dach genau 94 Jahre für die erste Kehr veröffentlicht gouf. De Georges Kuhnen huet sich am Vierfeld zu Brüssel mam Hergé-Expert Hugues Daillet iwwer den belge Phänomen von der Bande dessinée ënnerhalen.
Donc nous avons évoqué les différentes périodes des albums de Tintin, la création de Hergé et l'après Hergé en fin de compte. Comment ça a été géré? Bien, vous dites d'une façon parce que les vœux de l'artiste ont été respectés et moins bien autrement, parce que vous-même, vous avez écrit un livre à ce sujet.
Je pense que le problème et le péché mignon de Denis Crodwell à la tête de la société Moulinsart, qui est le deuxième mari de Fanny, il est piégé par son snobisme. C'est-à-dire que Denis Crodwell n'aime pas fondamentalement la bande dessinée, n'aime pas le terreau originel dans lequel a grandi Tintin, n'aime pas le fait que Hergé était au sein du journal Tintin avec d'innombrables confrères. Ça ne l'intéresse absolument pas. Son fantasme, ça a été d'extraire Tintin du monde de la bande dessinée pour le faire entrer dans le monde de l'art contemporain. Il l'a parfaitement réussi. Je pense qu'il a eu un orgasme avec l'exposition de Tintin à Paris. Il doit avoir une jouissance suprême quand les planches originales d'Hergé se vendent à des prix absolument monumentaux dans les salles de vente et qu'effectivement, le graphisme génial de Hergé, le nombre d'exégètes et de bouquins produits autour de Tintin, il n'y a aucune œuvre qui a produit autant de gloses, aucune œuvre de bande dessinée. Chaque année, on décortique, on ferait presque une collection des crottes de nez d'Hergé. Enfin, je rigole là, mais on sait très bien ce qu'il en est. Donc, on a fait complètement basculer cette œuvre dans le monde des intellectuels, des galeristes, des conservateurs de musées, bref, voilà. Et ça, mission accomplie, ils y sont parvenus. Donc c'est devenu une œuvre tout à fait reconnue. On parle d'ailleurs beaucoup plus de Hergé que de Tintin, alors qu'à l'époque du vivant d'Hergé, on parlait beaucoup plus de Tintin que d'Hergé. Voilà. Et donc, mission accomplie. Mais le revers de la médaille, c'est que la dimension, justement, pop culture, la dimension tout public, la dimension valeur familiale de Tintin, un vieil album qu'on tourne et qu'on retourne et qu'on écorne et qu'on abîme tellement on l'a lu. Je pense que cette dimension-là, c'est totalement, enfin, si pas totalement, en tout cas, c'est fort, fort, fort évanoui. Et la seule dimension de ramener cette dimension populaire et tout public de Tintin, c'est le cinéma et c'est l'audiovisuel. Or, de ce côté-là, vous savez, je vais vous livrer un scoop. J'ai interviewé le producteur d'Harry Potter à 2-3 reprises, qui depuis là a produit Paddington, David Heyman. Et il m'a dit en fin d'entretien, un de mes rêves était d'adapter Tintin. Parce qu'il adore les patrimoines, il adore les bouquins. David Heyman est un être extrêmement cultivé et un Anglais qui a le sens du public. Et il l'a prouvé avec Harry Potter. Et il a dit, mais j'ai très vite compris que ce serait très très compliqué. Vous savez, vous les connaissez? Il m'a dit, j'ai dit oui, je les connais. Il m'a dit, j'ai lâché prise. Vous imaginez si ça avait été bien négocié, ce qu'un David Heyman aurait fait avec Tintin, au niveau de la diffusion internationale, je pense qu'il y aurait eu un grand respect de l'œuvre. Je pense qu'il n'aurait pas eu tellement le problème du marché américain, parce que, contrairement à Spielberg, ses interlocuteurs sont d'abord européens, je veux dire, voilà. On peut fantasmer de ce qu'il aurait pu faire avec Tintin comme ce qu'il a réussi à faire avec Harry Potter, c'est-à-dire quand même une des grandes, grandes, grandes icônes de la pop culture de la fin du XXe et surtout de ce XXIe siècle. Mmh. Ça ne s'est pas fait, et ça ne s'est pas fait parce que, justement, je pense que Rodwell et les quelques personnes avec qui il travaille, puisqu'il ne délègue pas le pouvoir, qu'il est omnipotent, parce que c'est tellement, tellement difficile de négocier avec lui qu'il y a eu pas mal d'occasions manquées autour de Tintin pour, à la limite, faire perdurer le mythe. Voilà, donc d'un côté, ok, l'image de marque de Tintin, magnifique, c'est de l'art, c'est respecté comme tel, c'est très beau. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est quand même un peu prétentieux, un peu loin des gens. Il suffit de voir le musée Hergé à Louvain-la-Neuve, musée mausolée, comme l'ont surnommé certains. Vous savez, c'était la fameuse anecdote d'un journaliste qui demande à Fanny « Et pour les enfants, est-ce que vous avez prévu quelque chose ?» Elle répond « Ah oui, ah, pour les enfants. Oh oui, oui, mais il y aura des originaux qui seront suspendus à leur hauteur, qui pourront regarder. C'est QFD, tout est dit. Mmh. » Je dis, c'était pas de la faute à Fanny ni à Nick s'ils n'ont pas d'enfants, mais ils n'ont jamais su ce qu'était un enfant. Les enfants ne les intéressent pas. Donc ils ont très très fort déconnecté, très rapidement déconnecté de Tintin, de l'univers familial, pour en faire une valeur adulte pour des collectionneurs, avec pignon sur rue. C'est très bien, mais je pense que ces collectionneurs sont vieux et vont finir par disparaître. Et je ne suis pas certain que la nouvelle génération ait été très en connexion avec ce personnage, dont longtemps, très longtemps, le merchandising en plus a été tellement onéreux, tellement luxueux, tellement snob que... Vous savez, moi, enfant, je grandissais avec... les dessins animés de Bellevision, qui étaient Tintin, le Temple du Soleil, et Tintin, le lac aux requins. C'était moche, c'était pas très bien réalisé, mais il y avait une chouette musique, il y avait des chouettes chansons, et on faisait la fête, et on allait quand même le voir, parce que ça bougeait, et on était content de voir les personnes. Donc voilà, à force de vouloir à tout prix respecter l'intégrité de l'artiste, mais on le met sur une tour d'ivoire et dans une cage de verre, et on ne respire pas très bien dans une cage de verre.
Et on n'est pas sûr à 100% qu'on se retrouvera dans 10 ans ici pour évoquer les 100 ans de Tintin.
Écoutez, moi je trouve ça déjà miraculeux qu'il fait de ces derniers temps. Hergé lui-même n'y croyait pas. Hergé, à la fin, s'intéressait au taoïsme, au voyage, à la philosophie orientale. Il s'intéressait au présent, comme il disait, le merveilleux présent. C'est pas pour rien qu'il n'a absolument pas préparé son héritage, qu'il n'a laissé aucune consigne. Je pense déjà, lui, s'étonnait que ça existe encore, d'autant plus que dans les années 70, il était traité de vieux ringard avec les Picaros. Hein, c'était l'époque de la contre-culture, de pilote. On le regardait vraiment... Bon, toute histoire est cyclique. Aujourd'hui, les rois de la fête, c'est Edgar Pierre Jacobs qui était considéré tout aussi ringard que lui. Maintenant, Blake et Mortimer, on en bouffe à peu près tous les 6 mois. Voilà, donc peut-être qu'il va y avoir une mode, un revival Tintin dans 10 ans. Mais honnêtement, je vois pas trop comment. S'il n'y a pas d'album, ce dont encore je me félicite sur le plan artistique, mais bon, s'il n'y a pas d'album, on peut coloriser tous les albums noir et blanc, ce ne sera quand même pas des nouveautés. Et s'il n'y a pas de projet audiovisuel intéressant, voilà, je pense que ça va rester une valeur de patrimoine, mais comme les pièces de Molière sont une valeur de patrimoine, comme Oliver Twist ou Scrooge et Christmas Carol sont des valeurs de patrimoine. Voilà, c'est déjà très 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 bien, ça fait partie de l'inconscient collectif, mais que Tintin fasse l'actualité, ça j'en suis très honnêtement pas convaincu, puisque je ne suis pas non plus convaincu de l'avenir de la bande dessinée classique, parce que c'est un médium trop artisanal par rapport au mode de consommation de l'époque du capitalisme sauvage et du consumérisme qu'on traverse aujourd'hui.
Donc il n'y aurait qu'un deuxième film qui pourrait peut-être encore prolonger un petit peu l'ère Tintin, mais ça aussi, on n'en est donc pas sûr, comme vous disiez.
Mais écoutez, il suffit de voir une œuvre beaucoup moins mythique, que Tintin est beaucoup plus international, puisque mondialement, c'est la plus connue du catalogue belgo-français. Je dis volontairement belgo-français, pas franco-belge. C'est les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs ont fêté leurs 60 ans. Les Schtroumpfs ont percé aux USA. C'est une valeur aux USA. Ils vont vivre une nouvelle série d'aventures en images de synthèse pour la télévision, un médium qui leur correspond bien. Les Schtroumpfs sont fit and well, se sont jamais aussi bien portés. Il y a eu l'exposition énorme au Ezel qui va tourner, la Schtroumpf Experience qui va tourner pendant 5 ans dans le monde entier. Voilà, simplement, est-ce que l'œuvre originelle a été respectée? Oui et non. C'est-à-dire qu'on fait des scénarios qui sont bons, d'autres scénarios qui sont beaucoup moins bons, mais c'est le personnage qui existe, c'est le personnage, je trouve, qui est connu. Tintin, le personnage Tintin en tant que tel, n'est pas du tout la même dimension de mascotte. Tintin, quand on dit Tintin, ce qui est intéressant, c'est tout l'univers qu'il charrie avec. C'est le capitaine Haddock, c'est les pays qu'il traverse, c'est tout. On ne peut pas isoler. Tandis que, effectivement, un personnage comme Mickey ou un personnage comme les Schtroumpfs, les histoires sont presque anecdotiques. C'est le personnage lui-même qui est populaire, et qui est populaire sous toute forme, sous forme de poupée, sous forme de gadget, sous forme de jeu. Voilà. Donc on est dans une toute autre forme de pérennité. Les Schtroumpfs, on est dans une pérennité. Là, je parie encore pour un... Je pense qu'il y en a, il y a encore de la bonne réserve, il y a encore de l'essence dans le réservoir. Tintin, je ne connais pas l'essence dans le réservoir. Honnêtement, je n'ai pas de formule magique, parce que ce sont les histoires et l'univers de Tintin qui sont aussi porteurs et aussi formidables que Tintin. On ne peut pas détacher le personnage de ses aventures. Ses aventures, voilà, il y a le corpus des 22 ou des 24, enfin, selon qu'on compte l'alpha, voilà. De moins de 25 albums qui existent, on peut toujours tourner autour, mais on ne sait pas en faire on ne sait pas en faire des variations à l'infini. Donc pour moi, c'est un grand point d'interrogation, mais je pense, d'un côté, je trouve ça un incroyable miracle que ça existe encore. De l'autre côté, je suis assez pessimiste sur le fait que ce miracle puisse perdurer.
Den Georges Kunnen, den sich nahe nicht mit dem RG-Expert Hugues Dallier an das über das belgische Phänomen von der Bande dessinée aufgrund vom 90. Geburtstag vom Tintin an dem Milou. Es sind noch 14 Minuten bis 11 Uhr. Heißt den Salvatore Adamo, vous permettez, monsieur.
Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselles, que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous
vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage.
Zehn Minuten nach bis